Ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre.
Et peut-être en prison. 4 ans ferme ont été requis contre Patrick Balkany cette semaine pour fraude fiscale. Le jugement définitif sera rendu en septembre. Lui qui, député en 2013, interpellait le gouvernement sur la nécessité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale au niveau mondial. Un homme face à ses contradictions, après d'autres qui ont dû faire face à leur phobie administrative, à faire Thévenoud, à leurs mensonges, les yeux dans les yeux, à faire Cahuzac. Autant d'exemples, sans parler des poursuites en cours contre Carlos Ghosn au Japon, qui exaspèrent une opinion publique qui a imposé la fraude fiscale comme thème central du grand débat, 35 000 contributions citoyennes sur le sujet. Au point que le Premier ministre a confié dans la foulée à la Cour des comptes une mission pour mieux évaluer le phénomène et faire des propositions pour lutter contre. Quelles sont les sommes en jeu ? Difficile de le savoir. Par définition, un bon fraudeur est d'abord un bon dissimulateur. Le principal syndicat des finances publiques avance un montant total compris entre 80 et 100 milliards d'euros par an. C'est plus que notre déficit budgétaire national. Une attaque insupportable contre le pacte républicain s'insurge le gouvernement. Impôts, cotisations sociales, toute fraude comprise. Ce mal français s'étend bien au-delà des cas les plus médiatiques aux entreprises et aux particuliers. Les redressements pour travail au noir et fraude aux cotisations sociales ont ainsi battu tous les records l'année dernière. Tolérance zéro, c'est l'objectif que se fixe désormais le gouvernement à l'issue du grand débat. Un début de réponse à défaut de Big Bang fiscal pour commencer à réconcilier les Français avec leur impôt.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Écho du samedi, une émission réalisée par Coy Nguyen, préparée par Valentin Perret, sans oublier Antoine Gomez en régie. Merci à vous. On vote dans une semaine pour les élections européennes. Pas moins de 34 listes sont sur les rangs. Bonjour Christian Chavagneux, éditorialiste Alternative Économique.
Bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel Lechypre pour BFM Business.
Bonjour à tous.
Vous trouvez qu'on parle assez d'économie dans cette campagne ?
Ah, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez et puis quand on en parle mal.
Ouais, on parle un peu de social, on parle un peu de climat, c'est déjà ça.
Alors on en débat, rendez-vous dans quelques minutes. Et puis attention, émission bourrée de technologie aujourd'hui, alors que le salon Vivatech autour de l'innovation se termine à Paris. Notre invité sera le président d'IBM France, Nicolas Sekaki. Nous irons également à Shanghai prendre des nouvelles des géants du numérique chinois qui grandissent dans l'ombre des GAFA américaines. Nous ferons un crochet par Dijon pour aller voir à quoi ressemble chez nous ce qu'on appelle une ville intelligente. En tout cas, partiellement gérée par de l'intelligence artificielle. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Fabien.
Votre chronique Ma vie au boulot à la fin de l'émission. Ça y est, vous vous préoccupez enfin de votre solde de congé payé.
Oui, il est temps et on a une question un peu en panique de Clara qui veut savoir si les jours de congé payé qui ne sont pas posés avant le 31 mai seront irrémédiablement perdus.
On verra ça tout à l'heure. Merci Sandrine. Rendez-vous à 10h05.
L'Europe ennuie.
Régis Debray.
Il n'y a pas de communauté politique s'il n'y a pas un imaginaire commun.
Philosophe.
Et le drame de l'Europe, c'est qu'elle a à nous montrer qu'un euro, un billet, qui est un billet de Monopoly. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de devise, il n'y a pas de géographie, il n'y a pas de mémoire.
Nous sommes à la croisée des chemins.
Céline Spector.
Soit nous réussissons à inventer un modèle d'Europe sociale et environnementale.
Philosophe.
Soit, effectivement, nous sommes absorbés dans une mondialisation des flux et dans ce cas, nous n'avons plus d'identité propre. Et c'est en effet un moment tragique. Est-ce qu'on peut se dire l'Europe sera néolibérale ? Est-ce qu'elle sera nécessairement ordolibérale ? C'est en effet la grande question.
Je pense qu'il faut passer à l'Europe de la fraternité.
Laurent Godet.
Essayer de faire en sorte que l'Europe ne meure pas sur la question de la lutte des classes, en fait.
Écrivain.
C'est-à-dire qu'il y ait une Europe riche, marchande, qui se porte bien, et puis une autre Europe qui, en fait, ne vit aucun des bénéfices de la construction européenne. Cette question-là me semble maintenant fondamentale.
Dans le cadre de ce grand marché,
Coralie Delhomme,
on a pour ainsi dire organisé la prévalence de la souveraineté du marché sur la souveraineté populaire.
Essayiste.
Pour la France, il n'y a plus de politique monétaire, il n'y a plus de politique de change, il n'y a plus de politique commerciale, il n'y a plus de politique industrielle puisque les États n'ont plus le droit d'intervenir dans l'économie. Donc en réalité, la seule politique qu'on mène, et qu'on soit de gauche ou de droite, c'est qu'on taille dans ce qu'on appelle le coût du travail, autrement dit, la seule variable d'ajustement pour devenir plus compétitif que le voisin.
Vous savez que l'Union européenne, c'est les 4 libertés.
Agnès Benassi-Kéré.
Liberté des mouvements de biens, de services, de main-d'œuvre et de capitaux.
Économiste.
ces quatre libertés entraînent éventuellement une recomposition au niveau des États, avec l'émergence d'inégalités à l'intérieur des États membres. On évalue entre 10 et 15% l'augmentation du niveau de vie moyen grâce à l'intégration européenne. Maintenant, c'est à la charge des États de partager cette augmentation du gâteau, et ils le font, ils le font pas. Après, c'est très facile pour les États de rejeter la faute sur l'Union européenne.
Les politiques ont toujours eu des raisons propres de se défausser sur l'Union européenne.
Marion Van Rondergem.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi personne ne rappelle des choses évidentes.
Grand reporter.
Comme le fait que c'est l'ensemble régional le moins inégalitaire du monde. C'est l'ensemble régional où les normes environnementales sont les meilleures du monde, où les normes sanitaires, sécuritaires, etc. sont les meilleures du monde. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne rappelle pas ces vérités toutes simples et que les politiques nous emberlificotent avec des idées fausses.
Que gagnons-nous à être européens? 34 listes se disputeront les suffrages des Français la semaine prochaine. Dans le cadre des élections européennes, il y a des europhiles, des europhobes, des fédéralistes, des souverainistes. On ne va pas faire ici un débat électoral, mais on a besoin de se mettre les idées au clair sur les critères purement économiques et sociaux, sur ce qu'on doit à l'Europe, favorablement ou pas. Christian, Emmanuel, je vous pose la question à tous les deux. Vivons-nous mieux aujourd'hui en France grâce à l'Union européenne?
Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir que les Européens le pensent. Hein, quand vous regardez l'Eurobaromètre, qui est une enquête qui est faite depuis plus de 20 ans, régulièrement dans chaque pays d'Europe, vous avez quand même 68% des Européens qui pensent que leur pays a bénéficié de son appartenance à l'Union Européenne. C'est un petit peu moins pour les Français, mais c'est quand même 64%. Alors, si on essaye rapidement de faire la liste un petit peu de tout ce qui a été positif, alors on va... Bon, il y a les poncifs, hein, il y a la paix, mais n'oubliez pas les fonds structurels. Les fonds structurels, c'est 25% du budget de l'Europe. C'est ce qui a permis quand même de mettre à niveau tout un tas de pays.
Alors ça, c'est les aides aux régions.
C'est les aides aux régions, c'est les aides aux pays. Regardez, et ça, c'était fascinant parce que ça a correspondu à une époque où les pays européens ont convergé, hein, où l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Irlande ont rattrapé le niveau des autres pays européens. Il y a le grand marché quand même, hein, le grand marché depuis 92. On évalue à 3 millions d'emplois le bénéfice, 3 points de croissance supplémentaires grâce à cette explosion des échanges intracommunautaires. Il y a la politique de la concurrence qui a eu des résultats positifs. Hein. Regardez, moins 40% pour les billets d'avion entre pays. Les tarifs des télécoms, par exemple, en 2005, on était 10% plus cher que les États-Unis, on est 30% moins cher aujourd'hui. J'hésite toujours à citer Erasmus parce que c'est toujours très élitiste, cette circulation des élites européennes, mais c'est quand même un succès. C'est un continent sur lequel il y a moins d'inégalités que partout ailleurs. On circule librement, sans frais, on a une monnaie stable, des taux d'intérêt bas, les droits quand même défendus par la Cour européenne de justice sont meilleurs que ceux qu'on aurait si on avait vu chaque pays. Et puis, dans la lutte contre l'environnement, enfin, on a fait des progrès grâce à l'Europe.
Vous êtes d'accord, Christian, on vit mieux
la lutte
avec
pour l'environnement, pas contre l'environnement.
Oui, pardon, pardon. Ça n'est pas un lapsus, révélateur.
Non, je pense que personne, en fait... Pour être honnête, personne n'a la réponse à cette question. Il faudrait savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas eu l'Europe.
Il n'y a pas de monde en économie.
On n'en sait rien. Emmanuel dit la convergence entre pays en même temps. Les écarts de richesse par habitant dans les années 80 et aujourd'hui, c'est beaucoup plus élevé que dans les années 80 avant l'Union européenne, enfin en tout cas avant la zone euro. Un autre exemple, si on n'avait pas l'euro, avec toutes les crises financières, économiques qu'on a eues, on aurait eu des attaques massives contre le franc si on n'avait pas eu l'euro. Mais en même temps, si on avait dévalué, on aurait besoin de moins d'austérité. Donc le bilan, il n'est pas facile à faire. L'Europe, elle est là. Je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on pourrait vivre mieux dans l'Europe qu'on a ?
Y a quand même des échecs.
Allez-y.
Bah oui, parce qu'on ne peut pas être. La diplomatie, il n'y a pas grand-chose. La défense, pas grand-chose. Gros échec si on reste sur les sujets économiques, sur la politique commune de l'énergie, par exemple. Et là, on pourrait faire beaucoup de choses. Sur le social, là, il y a aussi énormément de chantiers à ouvrir. Sur la recherche et l'innovation, on est quand même très en retard aujourd'hui par rapport aux États-Unis et à la Chine, avec des objectifs, notamment l'agenda de Lisbonne qui visait à faire de l'Europe un grand continent de l'innovation et de la recherche. C'est un échec. Et puis là encore, la fiscalité, on n'a pas beaucoup avancé sur tous ces sujets-là.
Plus généralement, je pense qu'il y a une vraie réussite quand même. Et le Brexit le montre. C'est que c'est extrêmement coûteux de sortir de l'Europe. C'est l'Europe, tu l'aimes ou tu la changes, mais tu la quittes pas. Hein, c'est important. Par contre, le véritable échec, moi je trouve que l'échec qui résume, qui symbolise l'ensemble des échecs, on va débattre de plein de sujets après, on va décliner, mais c'est d'avoir voulu être la championne du monde du libéralisme dans un monde qui ne l'était pas. Oui. Elle a cru que la liberté suffisait à assurer la prospérité, la justice et l'équité. Or, ça ne marche pas. Et ça, c'est le fondement même de l'erreur. C'est le péché originel, comme disent les économistes, de l'Europe. Et ça, c'est vraiment ce qui nous plombe aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on a besoin... Je suis pas d'accord avec Christian sur un aspect de distinguer. Non, je pense qu'il y a une vraie réussite. Moi, je pense que la politique de la concurrence, et on va y revenir, est une réussite. En revanche, il faut bien distinguer, parce qu'on a toujours tendance à confondre politique de la concurrence, politique commerciale. Et je pense que la politique...
Et politique industrielle.
Et politique commerciale et politique industrielle de l'Europe ont été, pour le coup, des vrais échecs. Pas la politique de la concurrence.
Mais derrière tout ça, il y a cette question sur est-ce que l'Union fait la force, quoi? Est-ce que on peut être seul aujourd'hui sans Europe face aux États-Unis, face à la Chine? On va parler des géants du numérique tout à l'heure.
Le problème, c'est que l'Europe est à la table de la géopolitique mondiale. Le problème, c'est qu'elle est au menu.
Alors, nous recevions, souvenez-vous, il y a moins d'un mois dans cette émission, justement, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. C'est elle qui s'est par exemple opposée au mariage entre Alstom et Siemens, aux grandes dames du gouvernement français qui y voyaient l'occasion de construire, disons, un champion européen. L'Europe est-elle dans son rôle quand elle défend la concurrence, Emmanuel Le Chypre, l'évoquiez.
Oui, moi je trouve, je vous renvoie d'ailleurs, vous savez qu'avec Christian, on aime bien vous renvoyer tous à beaucoup d'études, etc. Je vous conseille de lire après.
Un peu,
il y a
pas
une
trop,
note du Conseil d'analyse économique qui est sortie, là, qui vient de sortir sur justement cette analyse de la politique de la concurrence, et qui montre par exemple que depuis les années 2000, si vous prenez la concentration des entreprises et les marges bénéficiaires des entreprises, elles ont plus augmenté aux États-Unis qu'en Europe, et le résultat, c'est que le pouvoir d'achat et l'investissement aux États-Unis ont eux aussi connu des baisses plus importantes qu'en Europe. Donc la politique de la concurrence en Europe, elle a clairement été favorable au pouvoir d'achat, et donc objectivement, c'est quand même une réussite. Alors après, il y a eu ce cas Alstom Siemens, mais objectivement, les raisons pour lesquelles on a refusé cette fusion... cas extrêmement rare quand même. La Commission européenne a accepté plus de 90% des projets de fusion qui lui ont été proposés. Et là, il y avait des raisons objectives quand même de refuser cette fusion Alstom-Siemens. D'ailleurs, beaucoup de pays européens étaient contre cette fusion.
Christian, l'Europe des industriels est donc compatible avec celle des consommateurs?
La politique de la concurrence, faut rappeler que c'est deux choses. C'est d'un côté la lutte contre les cartels, les entreprises quand elles s'entendent pour augmenter les prix, généralement c'est les fournisseurs, c'est les entreprises qui sont les premières victimes, mais comme elles répercutent après sur les consommateurs. Et là, de ce point de vue, il y a une magnifique décennie européenne de lutte contre les cartels. Les contrôles et les amendes ont explosé. Alors, c'est moins vrai l'année dernière. Va falloir savoir si c'est juste une rupture de série, parce que juste il y a une année où il y en a moins. Mais il faut faire attention. Mais sur la dernière décennie, c'est clairement une bonne évolution en termes de concurrence. Et puis la deuxième partie de la politique de concurrence européenne, c'est ce dont on a parlé, c'est le contrôle des concentrations. Emmanuel l'a dit, il n'y a que 10% seulement qui ont été refusés. Maintenant, si c'est les plus grosses et les plus symboliques, faudrait faire le bilan complet. Moi, je pense que le manque de champions européens, parce que quand on parle politique de concurrence, c'est surtout ça, on dit l'Europe empêche d'avoir des champions européens. Je pense que l'Europe n'est pas la responsable du fait qu'on n'a pas de grands champions européens. C'est d'abord des manques de volonté de mettre en œuvre des politiques industrielles nationales qu'on peut ensuite coordonner, mais il faudrait que chaque État s'engage dans ce type de politique. Et c'est surtout une politique de commerce et d'investissement qui a couru après les bienfaits du libre-échange, sans s'apercevoir que les bienfaits, un, sont concentrés dans les mains de quelques-uns, et deux, sont contrebalancés par deux, trois lourds inconvénients, par exemple la prise en main de la culture, de la santé, de l'éducation, etc., par des intérêts privés. Ce qui fait que la politique commerciale européenne est très contestée aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas de ça. C'est destructeur dans l'environnement. Ça aboutit à la mise en place d'une sorte de grand bazar juridique, ce qu'on appelle l'arbitrage international, qui fait que c'est toujours les entreprises qui gagnent face aux États. Et enfin, ça s'inscrit dans un jeu mondial où l'intervention étatique est très forte aux États-Unis, en Chine. Et nous, on est les idiots utiles de la mondialisation.
Non, il faut bien rappeler qu'il y a les quelques réussites industrielles majeures qu'on a connues sont le fruit de ce qu'on appelle la coopération entre États, hors de la structure vraiment de l'Union européenne. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'interdire.
Et c'est bien lointain.
Et c'est vrai que bon, on va citer toujours les mêmes dossiers. On va citer Ariane, on va citer Airbus, par exemple. Alors là, on voit qu'il y a une espèce de sursaut avec cette volonté de bâtir un projet pour devenir un des champions de la batterie électrique. On se demande même si c'est pas trop tard. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait pas envisager plutôt déjà la technologie d'après, plutôt que de courir bêtement après les Chinois qui sont un vrai rouleau compresseur en la matière? Mais on voit bien que ça, les coopérations entre États, sur le plan de la recherche et de l'innovation, ça marche. Donc, encore une fois, ne nous interdisons pas toutes les pistes qui peuvent nous rendre plus forts. On n'est pas obligé de vouloir rester dans le carcan vraiment de l'Union.
Alors, sur le point de l'harmonisation sociale et fiscale, en revanche, là, on peut pas dire que ça avance beaucoup. On reproche souvent à l'Union européenne d'être un ensemble trop hétérogène, avec des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Est-ce qu'une harmonisation des droits sociaux, des fiscalités, vous semble possible.
Alors l'harmonisation fiscale, c'est l'échec total hein, en Europe. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas eu, à part un petit peu sur la TVA, et encore, c'est que partiel, il n'y a vraiment pas de convergence. L'Europe, il faut le dire, est une zone de concurrence fiscale féroce. Et ça, alors il y a des bonnes raisons à ça. Hein, savoir combien on veut prélever sur les gens, combien on veut redistribuer, ça, c'est des choix démocratiques nationaux. Donc il y a des bonnes raisons au fait qu'on ne fasse pas tous les mêmes choix démocratiques nationaux. Pourtant, donc les réponses peuvent être légitimement différentes dans chacun des pays. À l'inverse, les entreprises, quand même, avec le grand marché, Emmanuel l'a dit, elles font circuler à peu près sans obstacle les biens, les services, les lieux de production. Est-ce qu'on mesure les profits de la même façon en Europe? Si vous n'êtes pas une entreprise cotée, non. Est-ce qu'on taxe de la même façon les profits en Europe? Non. J'en reste au taux officiel, hein, entre les 9% hongrois d'impôt sur les sociétés, les 30% français, la fourchette est vraiment large. Et c'est sans compter, bien évidemment, sur le comportement de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, dont les fiscs passent leur temps à écrire des règles qui permettent de voler nos recettes fiscales. Donc, en matière de concurrence fiscale, en matière de paradis fiscaux, l'Europe, c'est pas la solution. Malheureusement, c'est le problème.
Jungle fiscale et sociale, Emmanuel?
Je vais pas redire ce qu'a dit Christian. Après, sur un autre aspect qui est, par exemple, qui a été évoqué récemment et qui figure au cœur de plusieurs programmes, cette idée de créer un SMIC européen, d'avoir une harmonisation au niveau du salaire minimum. Bon, on voit bien que on peut éventuellement imaginer une règle commune en Europe, mais en aucun cas vous pourrez fixer un montant identique dans tous les pays. Si vous regardez aujourd'hui les écarts,
mais il s'agit pas de ça.
Bien sûr. Mais le salaire minimum, c'est 2017 euros au Luxembourg, c'est 286 euros en Bulgarie. Alors oui, la règle qu'on peut envisager, c'est est-ce qu'on prend une proportion, par exemple, par rapport au salaire médian, etc. Mmh. Là aussi, on pourrait envisager des solutions, mais bon, on voit bien qu'il y a évidemment beaucoup de pays dans lesquels jamais on accepterait de baisser le SMIC s'il fallait en arriver là pour pouvoir avoir une harmonisation. Donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels c'est très compliqué. Mais là encore, il y a des pistes intéressantes. Allez, une petite référence encore littéraire, là, le dernier livre de Xavier Rago, le patron de l'OFCE, qui s'appelle c'est civiliser le capitalisme. Lui, il a une proposition vraiment originale qui consiste à dire bon, on va pas rêver de révolutionner tous les systèmes sociaux de tous les pays. Par contre, pourquoi ne pas ajouter une couche supplémentaire qui serait une assurance chômage au niveau européen, partant du principe que finalement les salaires sont restés très rigides dans chaque pays. Bon bah voilà, ça ce serait le moyen de bâtir une forme de filet de protection supplémentaire sans forcément vouloir révolutionner les politiques sociales de chaque pays.
C'est du concret, ça donnerait corps à une Europe sociale, Christian
Chavagneux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, depuis 2 ans, hein, les spécialistes nous disent que sur les travailleurs détachés, c'est un peu mieux encadré, l'équilibre vie privée vie professionnelle, le congé paternité, etc. Tout ça a quand même un petit peu avancé. Je reviens d'un mot sur le SMIC européen. Il y a des réticences. Pourquoi? Parce qu'il y a des partis de droite, comme le parti d'Emmanuel Macron, qui veulent le baisser, qui veulent profiter du fait d'établir un salaire minimum à 50% par exemple du salaire médian, qui baisserait le SMIC en France. Donc évidemment, ça crée des réticences. Mais il y a aussi des syndicats en Suède, en Italie. Pourquoi? Parce que les négociations de branches, pas au niveau national, mais de branches sont très fortes et ils ont peur d'un alignement vers le bas, vers les branches les moins disantes. Et moi, je reprends aussi la proposition de Xavier Rago qui dit l'Europe a plus besoin d'un ministre du Travail que d'un ministre des Finances.
J'aimerais vous entendre sur ce qu'on appelle parfois le carcan budgétaire, cette règle plus ou moins fixe des 3% de déficit, du déficit, 3% du produit intérieur brut pour les pays membres. Est-ce qu'on peut véritablement parler de carcan budgétaire selon vous?
De toute façon, il faut maîtriser son déficit budgétaire et sa dette, hein, est l'Europe ou qui n'est pas l'Europe. En plus, il y a des marges de manœuvre. La France, l'Allemagne et plein de pays ont fait éclater le seuil des 3% sans problème. Pour autant, après la crise de l'euro, ces règles, elles ont imposé une forme de coordination budgétaire en Europe. Tout le monde dans l'austérité et tout le monde dans l'austérité vite. Et ça nous a plombé, contrairement aux États-Unis. La façon dont on a géré l'austérité budgétaire en Grèce, c'est honteux sur le plan humain. Donc oui, il y a quand même des contraintes. Alors qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont proches de zéro et que tous les économistes nous disent qu'ils vont rester proche de zéro, les règles budgétaires, elles bloquent les investissements nécessaires pour développer une Europe du numérique, pour développer une Europe qui lutte contre le changement climatique. Donc oui, il faut sortir les investissements d'avenir, par exemple, des règles budgétaires. Oui, il faudrait, par exemple, c'est la proposition d'Alain Grandjean, recourir à une méthode qui permet d'étaler le coût des investissements, comme le font les entreprises privées. Ça permettrait d'avancer et de se dégager de ces règles budgétaires.
Emmanuel, sur les règles budgétaires.
On avait des règles dont, effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez la littérature, il y a eu des rapports conjoints faits par des économistes allemands, français qui disent tous la même chose. Ces règles, elles sont trop complexes et elles ont effectivement l'inconvénient d'aggraver, d'amplifier les fluctuations économiques. C'est-à-dire que quand ça va mal, eh ben ces règles, elles font que ça va encore plus mal. Donc oui, il y a des moyens de sortir de cette complexité et de cette inefficacité. Après, il n'y a pas que le critère des 3%, hein, y en a d'autres. Hein. Y a le fameux déficit structurel qui est peut-être un critère un peu plus simple. Mais en tout cas, oui, il y a moyen d'inventer d'autres choses. Moi, je suis pas sûr, encore une fois, comme sur beaucoup de sujets en Europe, je suis pas sûr que le problème, ce soit la lettre et l'architecture qu'on a bâtie. C'est l'esprit qu'on est incapable de respecter. On pouvait très bien, avec les critères de Maastricht, se dire, il y a une crise spéciale, particulière, d'une ampleur gravissime. Et donc, allons-y, sortons des règles.
Merci beaucoup à vous deux, Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre. Merci d'être venu parler Europe avec nous en direct samedi matin. On ouvre à présent notre page technologique dans On n'arrête pas l'écho, direction d'abord Shanghai, où les géants du numérique chinois affichent en ce moment de robustes performances économiques.
全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看这一节中国新闻，我们来看详细内容。
Derrière les GAFA dont on parle beaucoup en ce moment en France, il y a les géants chinois du numérique en embuscade, on les appelle les BATS pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, des mastodontes peu connus en dehors des frontières de Chine mais qui pèsent très lourd. Bonjour Angélique Forger.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Chine. Le géant du e-commerce en ligne, Alibaba, a annoncé cette semaine un triplement de ses bénéfices trimestriels. Ça y est, la Chine s'impose comme une puissance numérique de premier rang face aux États-Unis.
Absolument, Fabien. En quelques années à peine, les géants chinois du numérique ont réussi à s'affirmer comme des concurrents sérieux face à leurs homologues américains. Alibaba affiche une croissance de plus en plus solide, mais il faut aussi parler de Tencent, le numéro 1 mondial du jeu vidéo et le propriétaire de la célèbre application de messagerie WeChat. Sa capitalisation boursière, souvenez-vous, c'était en 2017, avait dépassé celle de Facebook, tout un symbole. Il y a aussi Baidu, le moteur de recherche le plus utilisé en Chine et le quatrième site le plus visité au monde. La marque de smartphones ultra populaire en Chine, Xiaomi, est quant à elle le quatrième plus gros vendeur de téléphones de la planète. Et dans la queue de cette gigantesque comète, on trouve d'autres poids lourds. Huawei, JD.com, Didi Chuxing, c'est le Uber chinois. Ce développement prodigieux, il s'explique par plusieurs raisons. D'abord, ces 10 dernières années, le nombre d'internautes chinois n'a cessé de croître. Il serait près de 900 millions aujourd'hui. Et puis aussi parce que le secteur de l'Internet est une priorité pour le pouvoir chinois. Les autorités le savent, le secteur des nouvelles technologies permet d'accéder à une meilleure stature à l'international et permet aussi de soutenir la croissance.
Que pèse la rivalité technologique dans les tensions commerciales qui opposent actuellement les deux plus grandes puissances économiques de la planète ?
Oui, au-delà du dossier commercial et du conflit sur les droits de douane, une autre bataille se joue entre Pékin et Washington, tout aussi stratégique, elle concerne le numérique. Tout l'enjeu pour les Chinois et pour les Américains, c'est d'assurer leur indépendance technologique, mais aussi la captation d'informations, source de supériorité militaire. Et en la matière, Pékin a un gros atout, c'est son plan Made in China 2025, un programme gouvernemental d'investissement dans les nouvelles technologies pour transformer l'économie du pays. Avec ses objectifs chiffrés et ses milliards d'euros de subventions, beaucoup d'observateurs voient en ce programme la cause véritable de la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Lancé en 2017, ce programme est au cœur du projet de renaissance de la nation chinoise du président Xi Jinping. Le dirigeant veut s'en servir pour faire de son pays la première puissance mondiale d'ici 2050.
Merci Angélique Forger, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Shanghai. En France, à défaut de géants tricolores mondiaux, nous avons des start-up, des licornes et tout un écosystème qui intéresse les grands groupes mondiaux. Alors que le salon Vivatech se termine aujourd'hui à Paris, notre invité sera le président d'IBM France, Nicolas Sekaki. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, on va s'intéresser à ce que ces technologies peuvent changer dans nos vies quotidiennes, ou plutôt dans notre cadre de vie. On ne va pas vous parler du dernier gadget à la mode que tout le monde aura oublié dans quelques semaines, non. On s'intéresse à l'intelligence artificielle qui pourrait bien métamorphoser nos villes dans les années qui viennent. Bienvenue à Dijon, qui expérimente des équipements d'un nouveau genre.
Où est-ce qu'on est ici, Christelle ?
Vous êtes au poste de pilotage ON Dijon du projet de métropole intelligente.
Alors là, on va aller donc dans le centre de pilotage.
Voilà, donc là, on va monter.
Donc c'est là où tout se passe, hein, la salle des machines. On Dijon, le poste de pilotage On Dijon Métropole Intelligente Connectée.
C'est ça.
Région Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien donc de la région et de l'Union Européenne.
C'est ça, donc là on a les partenaires du groupement qui ont construit avec nous le poste de pilotage.
Voilà, donc il y a Bouygues,
les services, Citellum.
Citellum, Suez.
Suez et Capgemini. Ce sont nos partenaires financiers.
Voilà, on arrive.
Également, vous avez le montant du contrat qu'on a passé avec le groupement.
Donc, contrat de 12 ans de 105 millions d'euros, 180 bâtiments sécurisés connectés au poste de pilotage, 269 caméras renouvelées, donc des caméras de vidéosurveillance, 205 véhicules géolocalisés et 34 000 points lumineux 100% LED.
Tout à fait.
On vous suit.
Je ne pourrais pas rentrer avec vous, allez-y.
D'accord, donc je rentre tout seul dans un sas de sécurité qui se referme derrière moi. Donc, ce sont des vitres transparentes. Et voilà, ça se trouve de l'autre côté. Et me voilà à l'intérieur du centre de pilotage On Dijon, métropole intelligente.
Savoir si les poubelles publiques sont pleines sans se déplacer, allumer ou éteindre les éclairages publics à distance, ce n'est plus de la fiction. Partout dans le monde, les villes s'équipent. Kigali, Las Vegas, Toronto, Moscou sont devenues des villes intelligentes, autrement dit des smart cities pleines de capteurs et de données. Et en France, les villes s'équipent aussi, comme à Dijon, où nous sommes allés, aubaine pour l'écologie ou Big Brother en puissance, quand l'intelligence artificielle gère nos villes. C'est un reportage d'Anaël Verzo.
Pour rentrer dans le PC sécurité, donc c'est une grande salle avec deux grands écrans contre le mur.
Bonjour.
Bonjour. Je vous laisse vous présenter, vous vous appelez comment ?
Oui, Éric de Courcelles, responsable d'exploitation à Dijon.
Là, vous avez un écran en face de vous, un plan de la ville.
J'ai une cartographie qui me permet de mettre devant moi en fait, tous les équipements qui sont connectés. Hein, donc, alors les bâtiments pour la surveillance de toute la partie incendie, intrusion, contrôle d'accès, tout ce qui est l'éclairage public. Les feux routiers, la géolocalisation des véhicules, des services techniques, le réseau radio pour la police municipale, dont tous ces équipements communiquent avec nous, mais aussi on peut leur donner aussi des ordres. Hein.
Pardon, là vous zoomez sur le petit icône rouge, c'est quoi comme équipement ?
Un équipement, c'est une borne escamotable.
Ah, c'est l'entrée des zones piétonnes.
C'est l'entrée des zones piétonnes pour les véhicules légers. Donc on peut agir dessus, baisser la borne pour que le véhicule puisse passer et rentrer dans le centre-ville piétonné.
Donc à chaque fois, il y a des caméras, il y a des...
Oui, il y a des, notamment pour la surveillance, la descente des bornes. J'ai aussi tout ce qui va être dans l'éclairage public, où j'ai chaque point lumineux qui sont ici représentés. Et individuellement, je peux allumer, éteindre ou gérer la graduation d'un point lumineux aussi.
Ah oui, depuis votre ordinateur,
tout à
là.
Fait,
ouais. Donc vous gérez les
lumières. Je peux allumer la lumière, effectivement, depuis mon poste. Ouais.
D'accord. En France, 24 villes utilisent des technologies dites intelligentes. Par exemple, Marseille, Paris, Issy-les-Moulineaux, Nice, Lille, Montpellier ou encore Nantes.
Donc, je suis Bérangère Mesqui, je dirige le département développement durable et numérique de France Stratégie, qui est un organisme d'analyse des grandes questions socio-économiques.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Bérangère Mesqui, si les smart cities, c'est rentable ?
Alors, ça dépend des projets. Et en ce sens, c'est très important de pouvoir évaluer en amont la rentabilité des projets, à la fois la rentabilité financière, mais également la rentabilité qu'on appelle socio-économique, c'est-à-dire l'intérêt pour la société dans son ensemble du projet. Le cabinet de conseil Citizing et Open Cities avait produit une évaluation socio-économique de plusieurs projets de Smart City fin 2017. Par exemple, un projet d'éclairage intelligent à Rieux-la-Pape, 3 millions d'euros d'investissement, un projet qui est déjà rentable financièrement, puisque le bénéfice financier atteint 2,5 millions d'euros, et encore plus rentable si on prend en compte l'ensemble des externalités du projet, notamment la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées à une moindre consommation d'énergie, la baisse de l'accidentologie. Tout ça, si on le monétarise, on arrive à un bénéfice pour la société de 9,3 millions d'euros.
En revanche, vous avez des projets qui n'ont pas été estimés rentables.
Alors, notamment un projet d'administration en visio dans les Hautes-Alpes. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des guichets dans lesquels les habitants peuvent se rendre pour accéder à différentes administrations, comme les CAF, Pôle emploi. Donc ça, on se dit que ça permet des gains de transport, donc une baisse des émissions de CO2 notamment. Sauf que pour être effectivement rentable, il faut qu'il y ait suffisamment d'usagers. Et ce projet-là n'a pas rencontré son public. Donc on aboutit à une valeur collective créée de 36 centimes d'euros par euro investi. Ce n'est pas rentable pour la société dans son ensemble.
Pas toujours rentable pour les collectivités, mais davantage pour les entreprises ou les start-up. Alors, Jeanne Massa, vous êtes la cofondatrice de Habiteo et également vice-présidente de la French PropTech.
Donc, PropTech, c'est à peu près 400 entreprises en France aujourd'hui qui sont de l'innovation technologique sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et de la ville. Et ce que l'on a souhaité, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est de montrer ce que ces nouvelles technologies apportent à la ville aujourd'hui et à la ville de demain.
Alors là, on est devant votre écran d'ordinateur. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est l'application Idéalis.
C'est l'application d'Idéalis. Donc, j'ai mon profil, une petite icône qui dit mon immeuble, ma communauté, ça va être mes voisins, et ma mobilité, c'est l'ensemble des transports, et mon promoteur, c'est mon gestionnaire d'immeuble, en fait. Derrière, j'ai en temps réel, j'ai les heures du tramway qui est à côté de chez moi, du parking pour dire que j'ai 102 places de disponibles. Tiens, j'ai un incident, j'ai des graffitis dans mon immeuble. Je sais que ça va être géré puisque mon syndic a déjà pris l'information et est déjà en train de la traiter. Donc tout ça, c'est concis au sein d'une simple application. On va pouvoir optimiser la consommation d'énergie globale de la ville. On va pouvoir optimiser la consommation d'énergie d'un bâtiment. La santé. Donc l'exploitation de la donnée peut être bénéfique.
Alors il y a une question qui se pose, c'est celle des données. Que fait-on de toutes ces données qui vont être à la disposition des villes et donc aussi sans doute des GAFA, de ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que les GAFA vont s'intégrer et s'intéresser au marché entre guillemets français de la ville intelligente ?
Bien sûr. Donc aujourd'hui, quelles sont les réponses que la ville peut apporter ? Eh bien, c'est de dire, il y a des start-up françaises, les nouvelles technologies en France, elles existent. Les solutions de ville intelligente, on les a, ce sont les nôtres. Et à nous d'exploiter aussi cette donnée pour que ce soit le côté positif qui en ressorte.
Pour que ce soit quelque part les entreprises françaises qui puissent exploiter ces données et que ce ne soit pas aux mains des GAFA, c'est ce que vous... Je vous comprends bien.
Entre autres, oui. Ou en tous les cas, d'en tirer le meilleur parti, oui.
Les données intéressent les GAFA, mais c'est aussi le carburant des start-up et des entreprises françaises. Martin Drago, juriste, est membre de la Quadrature du Net.
Il n'y a pas que les GAFA, il y a tous les acteurs, que ce soit français. Il faut bien voir qu'il y a des acteurs français, il y a des acteurs chinois, il y a des acteurs américains. Si on doit prendre l'exemple des GAFA, effectivement, il y a un exemple à Toronto, par exemple, de Google, qui développe son projet de ville intelligente. Et c'est assez intéressant parce qu'au début, on a des projets qui font un peu rêver d'une ville parfaitement gérée avec que des outils intelligents et connectés. Et en fait, petit à petit, au moment où Google développe son projet, il a voulu intégrer des acteurs de défense des vies privées dans son projet, qui aujourd'hui sont tous partis. Parce qu'ils ont tous dit, attendez, en fait, Google, on ne sait pas ce qu'il va faire de ces données. En disant, évidemment, on sait très bien, il va revendre ces données. Donc oui, ça existe déjà, c'est déjà dénoncé, et c'est déjà le cas en France aussi.
Ah, et c'est le cas aussi en France.
Bon, on a des acteurs qui se retrouvent à gérer une ville, en fait. On a Saint-Etienne, c'est l'entreprise Vernon Carré. L'entreprise Vernon Carré, c'est une entreprise d'armement qui fait notamment le lanceur à balles de défense, dont on parle beaucoup en ce moment. Eh bien, eux, ils ont développé une société qui s'appelle Serenicity. Et avec Saint-Etienne, ils font plein de projets. Donc, Serenicity et Saint-Etienne développent des outils de ville intelligente, notamment des capteurs sonores dans la rue pour détecter, en fait, dès qu'il y a un bruit de graffiti, dès qu'il y a un bruit de feu, un coup de feu ou dès qu'il y a un cri dans la ville, tout de suite, le micro relaie l'information à un centre de la ville qui dit « Attention, là, il y a eu un coup de feu, là, il y a eu un cri, là, il y a eu un klaxon dans la rue. Il faut envoyer une patrouille de police pour voir ce qu'il fait. » Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette entreprise, des données qu'elle récupère ? En fait, on ne sait pas trop, c'est pas clair. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre législatif ou réglementaire qui encadre le développement de ces technologies. On est dans une espèce de flou un peu juridique que la CNIL, encore une fois, l'Autorité de protection de vie privée, a dénoncé en octobre dernier en disant aux législateurs, attention, il y a plein de projets qui se développent, on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas de cadre juridique, il faut faire quelque chose. Le législateur n'a toujours rien fait et on voit aujourd'hui plein d'élus qui profitent un peu de ce flou et qui développent leurs projets sans que personne vienne rien leur dire.
Quand l'intelligence artificielle gère nos villes, c'était un reportage d'Anaël Verzou.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour Nicolas Sekaki.
Bonjour.
Vous êtes le président d'IBM France. IBM figure parmi les géants de l'informatique et du numérique qui participent en ce moment au salon VivaTech à Paris. Une vitrine pour tout ce que le secteur compte de géants comme vous, mais aussi de licornes et de jeunes pousses. La France est-elle un pays d'innovation à vos yeux, Nicolas Sekaki, un pays attractif ?
Oui, bien sûr. Et ce qu'on voit à VivaTech, bien sûr, c'est les géants de la technologie, c'est les start-up, mais c'est aussi les PME. Et les grandes entreprises françaises et étrangères qui sont en train de créer de l'innovation, c'est-à-dire créer des nouveaux usages, avec des nouveaux moyens et des nouvelles compétences.
Un groupe comme IBM regarde la France en se disant c'est un pays dans lequel il fait bon investir.
Mais absolument, d'abord on est en France depuis plus de 100 ans, donc on est centenaire en France. Et effectivement, en ce moment, on investit. On a d'ailleurs annoncé l'année dernière qu'on investissait et qu'on embauchait plus de 1800 personnes. On a dit qu'on était à plus de 1000 personnes aujourd'hui. Et puis quand vous regardez les investissements récents que nous avons faits, nous avons investi dans la cybersécurité. Nous avons également installé nos locaux sur le plateau de Saclay pour être capable de faire de la co-innovation entre de la recherche fondamentale, de la recherche privée, publique et également les grands groupes pour créer des nouveaux usages. Et puis on travaille sur les ordinateurs du futur et les compétences du futur, notamment avec le quantum computing, l'université de Montpellier et la région Occitanie.
On va revenir dans le détail, mais le climat social, politique, les gilets jaunes, les mobilisations de la fin de l'année dernière, de ces débuts d'année, ça ne pèse pas sur les décisions de grands groupes comme le vôtre?
Les groupes comme les nôtres sont là pour la durée. Donc bien évidemment, il faut traiter les problèmes actuels et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille beaucoup sur les compétences, sur les régions, sur la partie économique, notamment au niveau régional en France. Mais nos investissements sont là sur la durée et n'ont pas changé notre volonté d'investir.
IBM a été reçu donc à l'Élysée cette semaine dans le cadre du sommet Tech for Good. La technologie au service du bien commun, pourrait-on traduire en bon français. Vous avez entendu notre reportage à l'instant sur les villes intelligentes et les questions aussi qu'ils posent en matière de protection des données. Les consommateurs, les citoyens que nous sommes, sont-ils suffisamment protégés ou faut-il plus de régulation?
Mais il faut deux choses, en fait. Et ce qu'on voit dans Tech for Good, c'est d'abord la technologie va métamorphoser toute notre vie. Elle va métamorphoser comment on mange, comment on s'approvisionne, comment on économise de l'énergie, mais également tous les business models des entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Et pour ça, il faut travailler sur les compétences. Parce que si on veut aujourd'hui créer de la valeur, quelque chose que nous voyons par exemple à Vivatech, il faut aussi préparer les technologies de demain. Et une grande partie de Tech for Good a été sur les compétences. Et nous avons fait des annonces pour faire en sorte que ça soit inclusif, mais également pouvoir développer les compétences pointues qu'il nous faudra. Et puis, il y a bien évidemment la donnée. On en parle, on l'a vu sur le reportage sur Disons, cette donnée c'est du pétrole, il faut être capable de le raffiner. Et il y a deux choses qu'il faut qu'on fasse là-dessus. Bien évidemment, c'est en tirer de l'innovation, protéger le consommateur sur sa vie privée, et ça c'est fondamental et il faut de la législation. Mais il y a également tout le débat sur les entreprises. 80% des données qui sont créées ne sont pas adressables par les GAFA, ce sont les données des entreprises, et il faut des acteurs de confiance, comme IBM, qui garantissent aux entreprises que leurs données, leur pétrole, va être protégé, ne sera pas exploité, et leur donner les outils et les innovations pour qu'ils puissent justement créer cette valeur. Et c'est ce qu'on a vu en particulier à Vivatech.
Les conteneurs sont bien étanches pour poursuivre votre métaphore du pétrole?
Oui, bien sûr, c'est nécessaire. Et il faut avoir des acteurs de confiance qui sont là depuis longtemps et qui ont les technologies, bien évidemment, mais également la volonté et les valeurs de dire notre métier, et c'est le cas, c'est de créer des plateformes pour les entreprises qui leur permettent de sécuriser leurs données, de les localiser où elles le souhaitent et également de leur donner les outils et les méthodologies pour pouvoir accéder à cette innovation.
Vous parliez des gens du numérique, des GAFA, évidemment leur ombre plane sur tout ce débat. Que pensez-vous de l'instauration d'une taxe GAFA en France? Est-ce qu'il faut élargir la démarche au niveau européen, mondial?
Mais je pense que ce qui est important, c'est payer les taxes dans les endroits où finalement on délivre de la valeur et on fait les endroits.
Donc on est plutôt... IBM le fait?
Oui, bien évidemment, on paye nos impôts, on paye nos charges sociales. Mais ce qui est important aussi, et donc sur la taxe GAFA, on l'a d'ailleurs publiquement dit, on la supporte.
Vous avez profité de votre présence à l'Élysée mercredi dernier pour annoncer donc le lancement en France d'un partenariat avec l'éducation nationale que vous avez déjà expérimenté au Royaume-Uni et en Irlande. Ce cursus PTEC, c'est son nom, pour préparer les jeunes au métier de demain. Deux lycées à peine seront concernés en septembre. C'est un début. Quelle est l'idée générale de ce projet?
L'idée générale, c'est que il faut que la technologie soit là pour le bien de tous. Et donc, un des sujets que nous avons, bien évidemment, dans l'inconscient collectif, on pense que les technologies vont laisser les gens sur le bord du chemin, et c'est l'inverse. Il faut que les technologies permettent au plus grand nombre d'être capables d'accéder au marché du travail. Et donc, nous avons travaillé depuis de nombreuses années à l'étranger, et on voulait le faire en France, d'être capable justement de prendre des étudiants, des lycéens, des écoles, des lycées de BTS par exemple, et de leur permettre de leur amener les compétences nécessaires pour qu'ils puissent trouver un métier en France. Et PTEC, c'est cette ambition. C'est Pathway to Technology, c'est-à-dire leur permettre d'avoir notamment ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être qui leur permet d'accéder à un métier.
Vous avez des métiers en tension, vous aussi, on entend beaucoup d'employeurs là-dessus en ce moment, vous avez du mal parfois à recruter?
Oui, on a bien sûr qu'il y a des métiers en tension, mais il y a les développeurs sont en tension aujourd'hui, tout ce qui est autour de la donnée est en tension.
La recherche
fondamentale est en tension. Mais la véritable sujet de tension aujourd'hui pour nous, et qui est un sujet sur les compétences, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, comme on le fait sur Pitech, de préparer la nouvelle génération à être capable d'innover, de participer au développement économique et d'en tirer les bénéfices, et de créer les synergies de co-innovation entre les métiers et la technologie. C'est ces passerelles-là qui vont créer les métiers de demain.
Vous lancez aussi une plateforme destinée aux chômeurs et aux personnes en reconversion professionnelle. Là, c'est un partenariat avec des associations et des ONG. En quoi la fracture numérique et surtout sa réduction représente un enjeu pour vous, au-delà évidemment de l'image de l'entreprise et de la communication? Est-ce que c'est un vrai enjeu économique pour vous?
Oui, on n'est pas là sur l'image, on est là sur des convictions. Il faut créer les compétences de demain. Dans 5 ans, 50% des métiers qui existeront dans 5 ans ne sont pas encore définis. Qui va les inventer? Et si nous ne participons pas en tant qu'entreprise citoyenne dans un pays à la montée en compétences et à la co-innovation, alors nous ne tenons pas notre rôle. Donc c'est un véritable enjeu. C'est un enjeu pour notre propre entreprise, pour nos salariés. C'est comment est-ce qu'on va leur permettre d'acquérir les compétences qui vont permettre de se préparer au futur, mais c'est aussi tout un écosystème. Et c'est pour ça que, par exemple, sur Pitech, on s'est allié avec BNPP et avec Orange pour être capable de travailler avec le ministère de l'Éducation et avec les lycées et les proviseurs sur quelles étaient les compétences et les expérimentations et les expériences en entreprise qu'il fallait développer.
Vous avez annoncé l'année dernière la création de 1800 nouveaux emplois dans les domaines de l'intelligence artificielle en France, du stockage des données, des objets connectés. Cet objectif, Nicolas Sekaki, est-il tenu?
Eh bien, un an plus tard, on a embauché plus de 1000 personnes.
C'est en cours, alors?
On a dit que c'était 1800 sur 2 ans. D'accord. Au bout d'un an, on en a embauché 1000.
Toujours sur l'emploi, il y a eu cet engagement pris à l'Élysée cette semaine d'encourager la parité et de féminiser les métiers de l'innovation et du numérique. Où en êtes-vous chez IBM?
Alors, chez IBM France, moi, je peux vous dire que dans mon comité de direction, j'ai plus de femmes que d'hommes. Déjà, j'ai réussi à le faire en moins de 3 ans. Et on est au-dessus des 30% aujourd'hui en termes d'exécutifs pour les femmes.
Vous pensez que ça doit être un objectif prioritaire de management dans les grandes entreprises aujourd'hui?
Je pense que la diversité est un objectif, la parité en est un. Et il est important, les femmes ont du talent, nous avons besoin de toutes les compétences pour être capables justement d'innover et de le voir. On le voit d'ailleurs dans les statistiques, la performance en termes de business des femmes est bonne. Nous devons d'être proactifs sur ce sujet et c'est pour ça que je pense que 45 ou 46 entreprises ont signé cet appel à pouvoir justement faire la promotion des femmes. Et on l'a fait d'ailleurs en France sur les conseils d'administration.
Alors vos équipes, hommes et femmes, dans le centre de recherche que vous avez inauguré le mois dernier sur l'intelligence artificielle, à Saclay, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, en région parisienne. Un nouveau centre est prévu dans les 2 prochaines années. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces projets de développement?
Oui, les projets de développement, c'est finalement, on voit toutes ces technologies qui émergent. Et d'un autre côté, nous devons dessiner un terrain de qu'est-ce qu'on va en faire. Et ben, par exemple, ce qu'on est en train de faire sur le plateau de Saclay, c'est qu'on travaille par exemple avec une PME-PMI française, une ETI qui s'appelle Gerbet, qui est spécialisée dans le contraste d'imagerie médicale pour pouvoir travailler sur le cancer du foie, de la prostate ou du sein. Et on est en train de développer avec eux quel pourrait être l'apport de l'intelligence artificielle sur l'imagerie médicale. Et on est en train de le développer et on le développera dans les années futures, qui permettra par exemple d'éviter des biopsies en étant capable de qualifier les tissus au travers des images que nous aurons.
Dernière question européenne, celle-là, puisqu'on vote la semaine prochaine, on en parlait avec nos débatteurs tout à l'heure. Votre homologue chez Microsoft France, Carlo Pourasanta, estime qu'il faut remettre l'Europe dans la course à l'innovation. Vous êtes d'accord? Le fossé se creuse avec les États-Unis ou la Chine?
Moi, je pense que c'est important que l'Europe et tous les partenaires européens, dont les entreprises comme les nôtres, aient une stratégie d'innovation. C'est fondamental, on est là pour innover, on a des grands groupes technologique, mais on a aussi des grands groupes commerciaux et la création de valeur se fera au travers de l'Europe.
Merci, merci beaucoup Nicolas Sekaki, président d'IBM France. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin.
Merci.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, une question un peu angoissée de Clara ce matin. Il lui reste 5 jours de congé payé à solder avant le 31 mai. S'il n'y arrive pas, ces jours seront-ils perdus?
En principe, oui Clara, si vous ne parvenez pas à solder tous vos jours de congé payé avant la date butoir du 31 mai, ils passeront par pertes et profits. Ce n'est pas le cas des jours de RTT. Ce sont des jours de compensation pour des heures qui ont été travaillées. Ils ne peuvent pas être perdus, même en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise. Ils doivent être reportés. La règle n'est donc pas la même pour les congés payés. vous perdez vos jours, sauf si l'entreprise ne s'est pas organisée pour que vous puissiez les prendre. Faire le boulot de deux collègues qui ne sont pas remplacés, bosser au pied levé pour honorer une commande urgente sans renfort, ne permet pas d'écluser ses jours comme on le souhaiterait. L'organisation des congés relève du pouvoir de l'employeur, mais c'est aussi à lui de démontrer qu'il vous a mis en mesure, Clara, de prendre vos congés. La charge de la preuve lui revient. 11 ouvrières d'une société de confection ont touché des dommages et intérêts parce que le patron leur avait interdit de solder leurs congés pour exécuter un important marché qui engageait la survie de l'entreprise. On ne peut pas à la fois demander à des salariés de venir travailler et de solder leurs congés.
Clara peut-elle demander à son employeur de reporter ses jours ou de se les faire payer?
Si un accord collectif prévoit cette possibilité, c'est tant mieux, sinon rien n'oblige une entreprise à accéder à ce type de demande. Par ailleurs, un employeur ne peut pas imposer aux salariés un report, ni remplacer la prise effective des congés payés par des espèces sonnantes et trébuchantes. Les congés payés doivent être pris en nature. Mieux vaut ne pas échanger des temps de repos salvateurs contre de l'argent. De part et d'autre, les tentations pourraient être trop fortes et dangereuses pour la santé. Mais il y a évidemment des exceptions. Encore une fois, si l'entreprise n'a pas permis à ses salariés de prendre leurs jours, des modalités de report et de compensation sont possibles. Et puis, il y a les imprévus, un accident du travail, un congé de maternité ou d'adoption donne lieu à un report de vos jours de vacances. Bon, pour l'instant, ça ne vaut pas pour le congé parental. Si vous tombez malade avant la date prévue des vacances, le report est permis. Si vous êtes cloué au lit pendant vos congés, et ça arrive quand on relâche la tension, eh bien, c'est tant pis. Enfin, un congé sabbatique ou de création d'entreprise décale votre temps de vacances, c'est toujours ça de prix.
Merci Sandrine Foulon, et c'est la fin de votre magazine Éco. Rendez-vous samedi prochain dès 9h10 sur cette même chaîne.